France Inter.
Bonjour, je m'appelle Francine, je téléphone de Sarreguemines en Moselle. En Moselle, il y a des jardins qui sont des vergers dont chaque famille peut profiter. Ce n'est pas la municipalité, c'est les habitants qui gèrent ça. Ce sont des biens communaux comme les bois communaux. Et ces habitants décident entre eux des modalités de gestion, bio ou pas bio, pour l'ensemble du jardin. On peut attribuer un certain nombre d'arbres à une famille qui le souhaite, que cette famille soit déjà résidente ou arrive, nouveaux arrivants dans le village. C'est une modalité qui est probablement aussi la même que celle des jardins familiaux anglais dont quelqu'un a parlé dans l'émission. Voilà.
C'est Jean du Jura. Voilà, je suis très intéressé par votre émission, surtout le jardin ouvrier, qui à présent s'ouvre à tous comme une thérapie. Il occupe les mains en libérant l'esprit. Il permet d'anticiper, de transmettre et de partager. On ne regarde pas sa montre et l'on apprend la modestie. Et j'ai trouvé que le comble du jardinier était de se planter. Merci de toutes vos émissions.
Bonjour, c'est Sébastien de Haute-Garonne, j'appelle de Revelle. Demain, on a le départ de la flamme olympique et en regardant le programme de la journée, en fait, j'ai cru que c'était une blague. Parce qu'en fait, la flamme, elle passe 45 minutes à Revelle, 20 minutes à Villemur-sur-Tarn, 45 minutes à Muret, 30 minutes à Rieux-Volvestre, 60 minutes pour faire le tour de la société Airbus, 20 minutes à Bagnères-de-Luchon pour finir 2 heures à Toulouse. C'est-à-dire autant d'argent dépensé, autant d'hélicos déplacés, autant de remue-ménage, juste pour passer 20 minutes dans un village, ça pour un symbole. Mais ça aurait été tout aussi bien qu'ils nous l'amènent directement au Stade de France, nous faire la belle cérémonie qu'ils ont prévue sur la scène, et puis c'était réglé, ça aurait été tout aussi joli. Franchement, je trouve ça un petit peu dommage aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.
Oui, bonjour Grégory. Total soutien à votre émission et à Camille Cronier en particulier. On a absolument besoin de vous, sinon le paysage audiovisuel va encore s'assombrir. On doit parler d'écologie, on doit agir, et votre émission y contribue. Merci et bon courage.
Merci beaucoup Grégory pour votre message et j'en profite aujourd'hui pour vous donner de bonnes nouvelles de la Terre au Carré puisque l'émission se poursuivra bien à la rentrée, mais avec Camille Cronier et Le Répondeur. Nous restons en discussion sur la question des reportages. En attendant, nous avons imaginé donc une nouvelle formule avec tous les ingrédients de l'écologie et de la science qui nous ont permis depuis 5 ans de vous proposer ce programme engagé que vous avez soutenu massivement ces derniers jours. Toute l'équipe de l'émission vous remercie d'ailleurs chaudement pour vos messages qui nous ont fait un bien fou et qui ont joué un rôle très important dans l'issue favorable de nos discussions. La Terre au Carré donc garde toute son identité et nous avons hâte de vous présenter sa nouvelle version dès la fin août avec les nouveautés que nous vous préparons. Donc faites passer le message et puis bien sûr, on reste mobilisés pour le service public. Pour vos messages, 01 56 40 45 45. Au sommaire de ce club de la Terre au Carré, les féministes dans les champs, c'est l'objet d'un livre qui vient de sortir et dont vous êtes l'autrice Constance Rimlinger. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et vous consacrez donc votre ouvrage au retour à la Terre et à l'écologie queer. On va en parler tout à l'heure. L'arrivée d'un nouveau média écolo, c'est toujours une bonne nouvelle. Et c'est l'occasion aujourd'hui de faire connaissance avec Fraca. Bonjour Philippe Vion-Dury.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes cofondateur de Fraca, un média papier, numérique et audiovisuel indépendant consacré au combat écologique. Ça sortira à la rentrée, donc fin septembre. On en parle dans un instant avec vous. Et puis une militante que vous avez sans doute repérée sur Instagram avec le compte Girl Go Green. Bonjour Camille Chaudron.
Bonjour Mathieu.
Vous allez nous raconter tout à l'heure comment vous êtes passé du marketing pour un grand groupe agro-industriel à la sensibilisation aux enjeux écologiques et sociaux. On va donc se retrouver tous les trois dans un instant et vous répondrez aux messages des auditeuristes qui nous rejoignent sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Juste avant 15h, le jour où d'Anaël Verzo, aujourd'hui sa rencontre avec un réalisateur de documentaire, il s'appelle Arthur Gosset, qui nous racontera le jour où il a compris que refuser certains emplois pouvait changer le monde. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati, Romain Lévy et Joël Levert, avec la technique Enzo D'Hospital.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Il y a eu, effectivement, un certain nombre d'actes qui s'apparentent à de l'éco-terrorisme.
N'ayons pas peur des mots. Les Français, vous savez, ils en ont marre.
la question n'est plus est-ce que nous allons arriver au pouvoir, mais quand.
On est un des pays les plus décarbonés au monde par habitant et par point de PIB. Mais disons-le, plutôt que de passer notre temps à dire qu'il faut toujours faire plus.
Je veux que dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
Un groupe de citoyens a rendu l'eau à la nappe.
Un montage de grandes citations que nous avons trouvées sur le site de Fraca, qui sera donc bientôt un nouveau venu dans le paysage des médias écolos. Philippe Vionduri, vous êtes donc le cofondateur de ce bimestriel papier et vidéo. Donc ça, c'est une vidéo hein, qu'on peut découvrir sur le site avec un petit medley finalement. Hein.
Alors trimestriel, et ouais. Oui c'est ça, ouais, c'était le teaser en fait de lancement qu'on a voulu un petit peu provocateur et nerveux.
Ouais, donc le lancement, puisqu'il faut encore patienter un petit peu.
C'est ça, en fait, là on est sur un pré-lancement, donc on a fait une campagne de financement et maintenant on sort le numéro fin septembre,
ouais.
Qui sortira aussi en librairie, ou par abonnement, ou en vente sur notre boutique en ligne. Voilà, donc, ça fait 132 pages tous les trois mois.
Donc à la fois du papier et puis aussi de la vidéo et des réseaux sociaux, ce qui paraît aujourd'hui indispensable. La version papier d'ailleurs, vous y avez réfléchi ou pas? Il y avait un enjeu pour vous?
Oui, alors un enjeu de plaisir déjà parce qu'on vient du papier, moi et mes camarades, donc Clément Quintard et Marine Benz, qui est directrice artistique. Et un enjeu économique, puisqu'en fait, ça offre une solidité un petit peu aux médias, puisque les gens, en fait, s'abonnent, ils ont il y a une matérialité dans le papier. Enfin, les gens, ils savent ce qu'ils ont à la fin, qui permet de soutenir toute l'économie générale du média et qu'on trouve quand même assez importante. Et garder ce lien charnel au papier, c'est important, mais en même temps, d'aller sur l'espace des réseaux sociaux, de la vidéo, pour toucher d'autres publics, pour d'autres narrations, d'autres enjeux aussi politiques.
Ouais.
Ça nous paraissait tout aussi important. Donc, on tente l'aventure bimédia, vidéo papier, qui est pas commun, pas commune dans les.
Camille Chaudron, c'est une bonne nouvelle, l'arrivée d'un nouveau média indépendant.
Ah, moi, j'adore. Je pense
autour d'écologie.
On en a besoin. On n'entend pas assez parler d'écologie, hormis dans quelques émissions de très grande qualité, bien sûr. Mais du coup, oui, en effet, je pense que c'est important qu'on aille, en fait, amener ce sujet au sein du débat public, partout où on peut prendre de la place.
Pourtant, des médias indépendants dans le domaine de l'écologie, il y en a d'autres, avec de très belles signatures également. On peut citer Reporter, Vert par exemple, parmi les plus récents. Donc, quelle sera votre plus-value chez Fraca?
Ah, dur sans taper sur les camarades. Non, tout le monde a sa place, et du très bon boulot est fait. Nous, ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est d'être un média qui est utile aux écolos eux-mêmes, en tout cas ceux qui se considèrent comme tels, et d'être utile au mouvement éco-social et populaire globalement. Et pour ça, une de nos plus-values, une des choses qu'on veut faire, c'est vraiment offrir un espace aussi d'échange et de débat entre les sensibilités internes de l'écologie, les sensibilités idéologiques, des écoféministes jusqu'au queer, jusqu'aux décoloniaux, les léninistes verts, les autonomes de la ZAD, etc. Donc vraiment toute cette question un petit peu interne et militante aussi, du plaidoyer jusqu'à l'action directe de masse qui est défendue par le Soulèvement de la Terre, par exemple. Enfin, voilà. Donc ce débat interne, il doit exister. On a envie d'offrir un espace pour qu'il existe. Et aussi d'aller travailler un petit peu la question des alliances sociales externes, on va dire, celles qui ne sont pas forcément naturelles au mouvement écologique aujourd'hui. Donc c'est de dire, en fait, qu'est-ce qu'on a à construire avec les ouvriers, avec les syndicats, avec les paysans, les paysannes. Et donc voilà, travailler aussi cette question un peu des alliances.
Donc c'est des voix que vous avez envie aussi de faire monter pour qu'on les entende ou qu'on les voit, en l'occurrence en vidéo,
ça,
par exemple.
Et puis par rapport peut-être au travail qu'on avait fait longtemps, qu'à moi, à Socialterre, qui était un travail assez peut-être distancié, intellectuel, autour des idées beaucoup et des concepts. Là, l'idée aussi, c'est aussi un petit peu d'incarner un peu plus, mais pas forcément d'incarner au sens de des gens qui font des trucs super et qui donnent à voir. Ça, c'est très bien, ça existe, mais ça existe déjà ailleurs.
Oui.
Mais c'est aussi d'incarner, quand les éleveurs commencent à travailler avec des animalistes contre le système industriel, là, il se passe quelque chose, là, il y a de l'écologie sociale qui s'incarne dans des gens. Enfin, je veux dire, c'est les gueules de l'écologie, quoi, de demain. Et on a envie de les donner à voir, quoi. Donc, c'est un petit peu aussi ça qu'on a envie de travailler aujourd'hui.
Camille Chaudron.
Oui, moi, en tout cas, ça me fait hyper plaisir d'entendre ça parce que, justement, pour moi, la lutte écologique, je suis militante depuis plusieurs années, et la lutte écolo, c'est aussi une lutte des classes et c'est aussi une lutte décoloniale. Et du coup, de sentir que ces sujets-là sont portés pas seulement par les militantes et militants qui sont dans cette convergence des luttes, mais aussi par des soutiens médiatiques, ça donne beaucoup de force, en fait, je trouve, au combat.
Constance Rimlinger.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Ça promet d'être passionnant, ces rencontres, ces regards croisés. je suivrai avec beaucoup d'intérêt aussi.
Mais vous qui faites du terrain en tant qu'ethnologue aussi, hein, j'imagine que ça doit résonner particulièrement.
Oui, tout à fait, cette question des alliances aussi qui se créent entre différents groupes. Parce qu'effectivement, moi je suis partie d'une enquête de terrain auprès de féministes qui s'installent à la campagne, donc dans différentes campagnes. Et effectivement, on voit des liens qui se créent avec des personnes, avec des agriculteurs, des agricultrices, des personnes aussi qui tentent de raviver aussi le tissu local, de créer des tiers-lieux. Il y a des alliances aussi plus ponctuelles à l'occasion de certaines luttes. Donc c'est vraiment un enjeu important, cette question des liens qui se créent.
Philippe Bionduris, c'est-à-dire que vous aurez un budget pour aller concrètement faire du reportage aussi sur le terrain? Vous allez consacrer une large part des financements pour ça?
Oui, enfin large part, non, pas forcément, mais en tout cas aller sur le terrain, oui, en tout cas aussi proche des gens qui le font, parce que oui, quand on est sociologue, on le sait, mais le réel est beaucoup plus complexe que ce qu'on le croit, et l'écologie, en fait, qui peut être très binaire, très cliché, dans ces débats au niveau national, devient beaucoup plus complexe et intéressante au niveau, sinon local, au niveau de l'in-situ, quoi. Mm-hmm. Donc du coup, l'idée, c'est d'aller proche de ça. Donc après, effectivement, c'est du coup de reportage, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire même proche de nous, hein. On a envie de faire un reportage sur les infrastructures invisibles de la ville, par exemple, et de partir de la plaque d'égout, de la poubelle jaune, etc., et de voir en fait toute la chaîne de métiers, de la maintenance, du soin, du recyclage, de la réparation, qui sont en fait toutes les chaînes qui font tenir nos villes. Ça, elles sont à notre porte, hein. Tous ces métiers-là, ils existent, c'est des gens qui devraient avoir une place centrale dans un projet écologique et social demain. Et pourtant, ils sont invisibilisés, et ils sont pas à l'autre bout du monde, ils sont pas dans la campagne rurale profonde, ils sont là à notre porte. Donc c'est ça que, en fait, le... Oui, il y aura du budget pour aller sur le terrain, mais le terrain, il est partout, quoi.
Qu'est-ce que vous insinuez, en fait, quand vous dites que le but, c'est de relayer la pensée de l'écologie hors des livres? Qu'est-ce que ça dit, au fond, ça?
Nous, on est un petit peu dans l'équipe, on est aussi un petit peu fatigué des livres, parce qu'on ça fait 6 ans ou 5 ans qu'on lit les livres en boucle sur ce qu'il faudrait faire, les analyses théoriques profondes sur la crise écologique, ses origines, etc.
Et vous trouvez que ça tourne en rond?
Un petit peu, mais il y a aussi des très bons livres qui sortent, donc c'est pas pour dire ça, mais c'est juste pour nous, on a aussi besoin maintenant d'aller hors des livres et d'aller appliquer ces idées-là ou les travailler au corps à corps, quoi, si je puis dire. Et je pense que c'est aussi un besoin qu'il y a dans toute une partie du mouvement écolo aujourd'hui, qui a lu, qui s'est politisé, qui s'est radicalisé, des fois on dit ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. Et maintenant, on dit, bon, on fait quoi? Et au-delà du « on fait quoi » de solutions miracles politiques, c'est le « qui fait quoi » aujourd'hui que nous, on a envie d'aller travailler. Ça aussi, ça. Et puis, mais de le faire avec une approche analytique qui est forte quand même. On est des gros lecteurs, on est des gens qui réfléchissent dans les données politiques. Voilà. Et du coup, on a envie de pas être les ravis de la crèche qui débarquons et découvrons tout. C'est bien aussi, des fois, d'ailleurs, ce traitement, il peut être super, parce qu'il peut faire, émerger plein de choses au regard des gens qui ne savent pas trop, connaissent pas trop ces sujets. Nous, on les connaît bien. Donc, on a envie, en fait, d'aller apporter aussi un regard très critique sur des luttes, sur des terrains, quoi. Et de, voilà.
Est-ce qu'il y a un enjeu politique aussi avec Fracas?
Oui, on s'en cache pas. Alors, des fois, on nous demande si on est militant. Alors, moi, je déteste ce terme militant, parce que militare, ça veut dire marcher au pas. Et je pense que marcher au pas, c'est incompatible avec un travail journalistique. Par contre, nous, on se vit, sincèrement, il faut le dire, comme des compagnons de route du mouvement éco-social. Nous, on est, d'ailleurs, l'honnêteté journalistique commande l'honnêteté intellectuelle, mais pas du tout d'être forcément détaché des luttes, des enjeux politiques du moment, etc. Donc oui, nous, on est un journal de gauche, engagé, proche du terrain, proche de différents courants, d'ailleurs, hein, on n'est pas du tout, c'est pas facile de nous mettre dans une case, mais voilà, donc on est organique du mouvement social.
Mais est-ce que justement, vous qui allez ouvrir le journal à toutes les voix, en tout cas le média à toutes les voix, est-ce que vous pourriez aussi donner la parole à des écologistes de droite dans Fracas?
Non. Alors en fait, la question qui se pose, elle est très intéressante, cette question, parce que nous, on travaille pas ce lectorat-là, un lectorat qui s'intéresserait, je pense. Par exemple, ça serait le rôle d'un service public.
Tout ça fait quand même partie de la diversité aussi des voix de l'écologie, puisque votre ambition, c'est d'ouvrir à toutes les voix.
Alors c'est là qu'on va pouvoir préciser. Nous, c'est pas toutes les voix de l'écologie. C'est dans l'espace qu'on délimite comme étant celui de l'écologie émancipatrice. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une limite qu'on met.
Donc l'écologie droite n'est pas émancipatrice pour vous?
Non, pour nous, une écologie qui, qu'on dirait éco-moderniste, qui vise simplement à électrifier le capitalisme, n'est selon nous pas cohérente avec les enjeux d'émancipation que devrait porter l'écologie. Des débats, on pourra en avoir, mais notre but, c'est pas de donner autant de parole à ces gens-là qu'à des gens qu'on trouve plus intéressants, de même que des formes d'écofascisme qui apparaissent maintenant en germe, on pourrait définir ce que c'est ce terme aussi, hein, ne sont pas des écologies qui, selon nous, devraient avoir droit au chapitre au même titre qu'une écologie émancipatrice qui fait droit au monde vivant et à sa préservation, qui fait droit aux luttes féministes, coloniales, décoloniales, etc.
Camille Chaudron, vous voulez réagir?
Oui, bah alors j'adore ce que j'entends et j'aimerais rajouter justement que dans cette notion d'écologie émancipatrice, moi j'aime bien mettre aussi le fait que l'écologie elle sera pas pérenne, durable, viable, désirable si jamais on ne l'amène pas avec en même temps une annihilation en fait des dynamiques d'oppression et de discrimination des minorités globalement qui soutient en fait. On ne peut pas avoir une écologie de droite, pour moi, c'est presque un oxymore, dans le sens où il n'y a pas de remise en question du pouvoir en place, de la logique capitaliste de marché qui fait que on privilégie un petit groupe au détriment d'un grand groupe de travailleurs. Et donc ça a besoin d'être rediscuté aussi.
Vous allez mener ce combat de quelle façon alors? Parce que vous montez en fait une SCOP, ça c'est une coopérative en réalité, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de patron au sein de Fraca, c'était aussi un choix de votre part.
Enfin, pas de patron, c'est pour ce qu'on dira patron, mais il y aura des...
Il y aura des rédacteurs en chef, quand
voilà,
même.
Voilà, il y aura quand même des procédures hiérarchiques, des titres, etc. C'est, un journal a besoin de ça aussi pour fonctionner. Mais effectivement, le capital est aujourd'hui détenu à part égale et en voix égale, surtout entre nous trois, cofondatrices. Et demain, quand les salariés entreront dans la coopérative, on espère que dès septembre, on pourra accueillir déjà deux à trois premiers salariés, ils accéderont très vite au même statut que nous, et donc ce partage du pouvoir se fait selon les modalités de la coopérative, c'est-à-dire une personne, une voix.
Et donc vous avez ouvert un financement, hein. C'est fermé d'ailleurs maintenant, ou pas, alors, ceux qui souhaiteraient vous encourager?
La campagne est officiellement fermée, mais la page est encore ouverte jusqu'à la fin du week-end, donc si les gens souhaitent s'intéresser tout simplement déjà à notre travail, voire nous soutenir par un abonnement, pour un achat de numéro, ils peuvent y aller.
Il y a déjà un site qui s'appelle Fraca, qu'on peut aller consulter. Quoi. Juste un mot sur le titre quand même, il y a une histoire derrière ce titre?
Une longue histoire de recherche nocturne à plusieurs.
Ouais.
Non, on s'est arrêté sur celui-là, on aimait bien le mot parce qu'il était très court, il était très en consonance, quoi, Fraca. Et ça fait un peu écho à la fois au fracas du monde qui s'effondre un peu autour de nous, du monde vivant notamment, et en même temps le fracas aussi, la clameur un peu de la foule qui s'assemble, qui rouspète en bon français.
Voilà. Et ben ça va rouspéter à partir de la rentrée hein, pour ce trimestriel, donc premier numéro fin septembre, Fracas avec Philippe Vion-Dury et son équipe. Dans un instant, les féministes des champs, et aujourd'hui une journée spéciale autour de Billie Eilish, c'est la sortie de son nouvel album en partenariat avec France Inter, Hit Me Hard and Soft, et on vous propose de découvrir un nouveau titre de cet album. Voici Wildflower.
Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. You showed her the world. We fell love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me. You don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Like a fever, like I'm burning alive, like a sun. Did I cross the line? Don't need to remind me. Put it all behind me.
my eyes.
La fleur sauvage de Billie Eilish à l'instant sur France Inter, journée spéciale donc pour découvrir son nouvel album. Tout à l'heure dans le téléphone sonne un débat qu'écoutent nos ados et vous pourrez également découvrir cet album dans son intégralité ce soir à 22h sur Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
On abandonne nos femmes d'aujourd'hui et puis on se projette dans l'avenir assez loin avec les bergères de l'Apocalypse. Françoise Daubonne.
Je l'ai fait pour me défouler. Parce que
défouler
je trouve que
pourquoi,
parce que je trouve que la vie actuelle, le monde actuel est d'une étroitesse et j'ai fait une épopée délirante.
Boum.
Boum. La guerre des sexes au 21e siècle.
Voilà.
Les femmes se soulèvent et disent moins encore à cause du tort qu'on leur a fait qu'à cause du tort qui est fait à la nature qui devient un tel crime qui devient finalement la disparition de toute l'espèce, hommes et femmes. Alors elles disent, dans ce cas-là, quand l'équation est insoluble, il faut supprimer la moitié du problème. Et elle supprime les hommes.
Voilà.
Voilà.
Carrément. Oh, bah, oui.
Sans complexe.
Bah, voilà.
Et voilà. Et ça s'est passé sur le plateau d'Apostrophe de Bernard Pivot en 1978. L'écoféministe Françoise Daubonne, Constance Rimlinger. Évidemment, cette voix, elle est importante. Elle résonne aussi particulièrement dans votre ouvrage Féministe des champs, du retour à la terre, à l'écologie queer. Vous qui êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'Université de Lille et qui publiez donc cet ouvrage aux presses universitaires de France. C'est le fruit du travail d'ailleurs que vous avez réalisé pour votre thèse au départ. Hein.
Oui, tout à fait. C'était l'objet de ma thèse à laquelle j'ai consacré plusieurs années et j'ai voulu ensuite le rendre accessible à un public plus large et donc le transformer en livre.
Exactement. Comment vous avez commencé à vous intéresser à cette question du retour à la Terre via l'écoféminisme ?
Alors, c'est parti d'un intérêt pour le croisement entre différentes luttes. J'observais que dans les mondes militants, bien souvent, se sensibiliser à une lutte, à une cause, conduit à s'intéresser ensuite à d'autres systèmes d'oppression, d'autres systèmes de domination, en écho d'ailleurs à ce qu'on disait il y a un instant. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait eu aux États-Unis des terres de femmes séparatistes, des femmes lesbiennes, qui ont voulu créer des communes entre femmes, à la fois pour expérimenter d'autres manières de vivre ensemble et de vivre leur féminisme, et en même temps de préserver la terre et les forêts de l'Oregon. Et donc c'est parti d'un intérêt pour ce mouvement précisément. Et j'ai découvert qu'il y avait eu un mouvement transnational de terres de femmes séparatistes dans différents pays d'Europe de l'Ouest, d'Océanie et d'Amérique du Nord.
Il y en a eu en France ?
Il y en a eu en France, effectivement, dans l'Ariège notamment, et en Bretagne. Et j'ai aussi découvert qu'il y avait eu des initiatives plus récentes qui étaient à nouveau portées par des féministes queer ou lesbiennes, mais qui n'étaient plus des communautés non mixtes. Et donc j'ai voulu étudier tout cet écosystème riche mais méconnu.
Alors absolument méconnu. Françoise Daubonne, alors elle, c'est une des grandes voix justement de l'écoféminisme, hein, figure iconoclaste hein, justement à la croisée du militantisme féministe, de l'écologie radicale, de la pensée libertaire. Elle a beaucoup inspiré en France hein.
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup, inspiré, elle est lue et aujourd'hui elle est redécouverte. Donc aujourd'hui elle inspire beaucoup et il y a vraiment un mouvement aussi bien de réédition, ses ouvrages circulent, contribuent vraiment à la redécouverte de l'écoféminisme.
Oui.
Mais dans un premier temps, ça a été beaucoup plus discret en France et finalement ce terme d'écoféminisme qu'elle a été la première à employer,
oui,
a plutôt résonné dans les pays anglo-saxons en lien avec les mouvements anti-nucléaires. Donc c'est vraiment là que l'écoféminisme a vraiment pris, si on peut dire, dans les années 80, alors qu'en France, c'est plus tardivement que les Françaises et les Français s'y sont intéressés.
Mais quand même, 1978, quand on l'entend dire sur le plateau de Bernard Pivot qu'on peut éliminer la moitié du problème en enlevant les mecs, c'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, Camille Chaudron, mais à l'époque, en tout cas dans les années 70, il faut imaginer ce que ça représente, quoi.
Ouais, moi je trouve ça incroyable en fait, ça me donne tellement de gratitude pour justement ces femmes qui déjà à l'époque ont ouvert la voie et avaient déjà des idées lumineuses.
Vous trouvez que c'est une idée lumineuse d'enlever la moitié de l'humanité, vous ?
Non, c'est évidemment simplifié, c'est fait pour faire réagir, mais en tout cas, je trouve que ça pointe du doigt au moins un acteur qui est pris comme maître étalon dans nos sociétés et qui est largement aussi responsable des choix politiques qui sont faits.
Constance Rimlinger, le retour à la Terre, cette expression, ça circule beaucoup en ce moment, mais ça veut dire quoi et quelle définition vous revendiquez au fond ?
Oui, parce qu'effectivement, c'est une expression qui circule et qui a plusieurs sens. C'est-à-dire que quand on pense, par exemple, aux néo-ruraux selon l'INSEE, c'est pas exactement la même définition que quand on parle du retour à la terre en s'intéressant à des alternatives de vie. Et donc, pour le dire très simplement, c'est un mouvement de déplacement des villes ou des espaces périurbains vers des espaces ruraux et des campagnes. Mmh. Mais dans le sens où je l'ai employé dans mon enquête, je me rapproche plutôt de toute une tradition d'études des utopies et des alternatives. Donc c'est une histoire longue. On peut même repenser aussi aux communes libres anarchistes, à des expériences socialistes aussi de mise en commun de lieux. Et donc c'est plutôt dans cette histoire d'une recherche d'émancipation et d'utopie en milieu rural.
Mais est-ce que ce retour à la terre, c'est toujours lié à un projet agricole ou ça peut aller au-delà aussi ?
Alors, pas nécessairement. Bien souvent, il y a un lien avec un projet agricole. À minima, dans une visée vivrière, donc c'est pas toujours pour devenir agriculteur ou agricultrice et en vivre,
oui.
Mais il y a toujours un souhait de reconnexion à la terre et donc de travailler aussi avec la terre qu'on vient habiter. Mais le retour à la terre, ça peut aussi être, il y a aussi des activités de soins, ça peut être aussi de développer des activités à l'échelle locale dans des villages, par exemple des circuits courts, des différents types d'activités culturelles. Donc c'est beaucoup plus varié que simplement l'agriculture.
Et donc vous êtes partie à la rencontre d'initiatives écologistes portées donc par des féministes, lesbiennes, queer, à celles et ceux qui trouveraient que vous vous intéressez vraiment à un sujet de niche en vous intéressant à cette écologie queer. Qu'est-ce que vous leur répondez exactement ?
Je répondrai en deux temps. Dans un premier temps, je dirais que c'est un petit pan d'un groupe plus large et que partir de cette minorité, ça permettait aussi de mettre en avant certaines problématiques qui concernent finalement le milieu rural ou qui concerne les alternatives plus largement mais qu'on pense peu, par exemple à la répartition du travail. L'intérêt aussi de m'intéresser à des féministes lesbiennes, c'était de voir comment par exemple le travail peut être réparti dans un couple de femmes ou dans une communauté non mixte, alors qu'on a beaucoup pu montrer que l'agriculture répondait souvent à une logique de couple très complémentaire. Donc ça permet de déplacer le regard et ça c'est intéressant au-delà de la minorité qu'on étudie. Donc ça, c'est une première réponse. Et une deuxième, c'est de montrer que même si c'est une minorité, il y a quand même eu toute une histoire, comme je le disais, transnationale. Donc c'est vraiment des lieux qui ont essaimé dans plusieurs pays, avec aussi des échanges culturels. Il y a eu des livres, des magazines, des photographies qui ont circulé. Mmh. Et donc il y a aussi une grande richesse et on peut y puiser aussi une inspiration.
Ces lieux, par exemple, en France, est-ce que vous arrivez à les cartographier un petit peu ou est-ce qu'on sait à peu près leur nombre, leur représentation ?
Oui, alors pendant mon travail d'enquête, j'ai cherché à les cartographier. Mais en France, le mouvement, en tout cas des terres de femmes séparatistes, avait beaucoup décliné. Il n'y avait plus que deux lieux au moment de mon enquête et avec très peu d'habitantes.
Ah oui.
Par contre, aux États-Unis, ça reste encore bien vivant. Il y a des communautés qui reçoivent encore des visiteuses, qui ont même des nouvelles habitantes plus jeunes. Ça, c'est un grand enjeu pour elles de se renouveler, d'arriver à attirer
avec d'autres
aussi.
Générations, ouais.
Voilà, c'est ça, de dialoguer avec d'autres générations, puis d'avoir des nouvelles habitantes. Par contre, ce que je montre aussi, c'est que même s'il y a moins de communautés séparatistes, il y a tout un ensemble d'autres alternatives qui émergent. Et ça, par contre, c'est très dynamique, mais c'est difficile à cartographier comme ça se passe.
Donc, il n'y en a pas beaucoup quand même en France. Hein.
Il n'y a pas beaucoup de communautés en tant que telles.
Ouais. Ouais. Alors, il y a Pierre qui nous écrit, il est un peu paumé. Il dit « J'ai du mal à comprendre la notion d'écoféminisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et comment les hommes peuvent se placer par rapport à ce mouvement ?»
Oui, vaste sujet. C'est peut-être encore plus large que la question du retour à la Terre. Mais alors, pour le dire très simplement, l'écoféminisme, c'est de penser le féminisme sans laisser de côté les enjeux écologiques et de penser l'écologie sans laisser de côté les enjeux aussi de genre et de féminisme. Et on peut voir des racines communes dans la destruction de l'environnement, dans des enjeux environnementaux et en même temps dans les problématiques de violence ou de discrimination de genre. Donc c'est de comprendre ces liens aussi bien sur un plan théorique, mais ensuite aussi de l'incarner dans des luttes, donc des combats qui permettent de mêler les deux.
Mais est-ce que ça laisse les hommes de côté, justement, pour essayer de répondre à sa question à Pierre ?
Ben moi, je répondrais à Pierre que pas du tout, et que les hommes y ont leur place aussi. Et c'est vrai qu'on entendait avant les mots de Françoise de Bonne, qui est connue pour son verbe très haut et un petit peu provoquant. Mais les hommes peuvent tout à fait s'intéresser à l'écoféminisme, et je pense même que le féminisme concerne tout autant les hommes.
Ces féministes que vous vous présenter. Donc il y a effectivement, entre autres, il y a plusieurs familles, hein, parce que là aussi, vous montrez vraiment quelque chose qui est très polyforme. Les différentialistes séparatistes, par exemple, qui donc occupent des lieux et défendent la non-mixité. À ce sujet-là, il y a le témoignage d'une femme, par exemple, qu'on peut lire dans votre ouvrage, qui met en avant cette non-mixité comme un facteur important pour apprendre à se sentir en confiance et non juger et élargir sa sphère de compétences. Concrètement, ça veut dire quoi alors ?
Bah, concrètement, ça s'incarne dans des actes. Ça, je mettrais vraiment le fait de faire et les actes au premier plan de leur action. Et ça consiste à créer des espaces-temps où les femmes ou les personnes discriminées peuvent, par exemple, expérimenter l'usage des outils, apprendre à construire, donc construire des maisons, faire des chantiers.
Sur les chantiers, voilà, sur les tâches de force, par exemple.
Voilà, sur les tâches de force, voilà, ça c'est un très bon exemple. C'est s'émanciper finalement des contraintes ou des limitations de la socialisation genrée. Donc pour le dire autrement, le fait qu'on n'apprenne pas les mêmes choses en tant que petite fille ou petit garçon dans une société qui va peut-être nous amener vers d'autres valeurs ou d'autres compétences selon notre genre. Mmh. Et donc, c'est de s'émanciper aussi de ça en apprenant, mais dans un contexte bienveillant et qui évite aussi le jugement extérieur.
Ouais, elles disent à quel point c'est important aussi pour découvrir sa propre solidité et sa puissance. Camille Chaudron.
Moi, je rejoins complètement ça à travers mon expérience, parce que j'ai fait des chantiers participatifs dans lesquels, quand on n'était que des femmes, sur ces chantiers-là, conduire le tracteur, prendre la tronçonneuse, etc., dès qu'il y a un homme, spontanément, on se tourne vers lui pour dire « c'est toi qui vas t'en charger », quoi.
Même les femmes ont en fait ce réflexe-là ?
Ouais, complètement. Enfin, moi, dans mon expérience, en tout cas, c'est ce qui se passe. Alors que quand on se retrouve qu'entre femmes, il y a un côté très empouvoirant de se dire « là, on se retrouve les manches et on y va », et en fait, c'est assez dingue de voir combien on peut se sentir hyper forte avec ça et puis gagner en compétences. Mmh. Et j'avais également écouté un podcast sur justement les agricultrices de Charlotte Bien-Aimée qui fait un podcast à soi qui est passionnant sur ce sujet-là et vraiment c'est fascinant.
Constance Rimlinger, qu'est-ce qui en général occasionne ce retour à la terre chez ces femmes ? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun ou là aussi c'est très diversifié ?
Alors c'est assez diversifié, mais on peut quand même observer différentes tendances. Donc si on repart des origines de ce retour à la terre dans les années 70-80, il y avait cette impression qu'il n'y avait pas d'espace pour les femmes, et notamment pour les femmes lesbiennes, pour avoir des lieux pour se rencontrer, pour se reconnecter à la nature. Pour vieillir aussi, c'est vrai que le vieillissement est un véritable enjeu, comment bien vieillir ensemble. C'était aussi, y a un dénominateur commun, c'est le souhait d'avoir un espace plus sûr, donc de se mettre en sécurité pour des personnes qui vivent des violences au quotidien. Donc ça ressortait beaucoup pendant mon enquête. Ensuite, il y a bien sûr le souhait d'agir et d'avoir un mode de vie plus engagé. Ça, c'est vraiment très, très récurrent.
C'est la politisation du quotidien.
Exactement.
Ça, c'est une notion qui est importante. Et des moindres gestes pour reprendre
les mots de Geneviève
Fruveau, qui a dirigé votre thèse.
Exactement. Et qui s'applique très bien, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui, pour certaines, connaissent une sorte de désillusion militante, qui ont milité dans des villes, qui ont fait partie de collectifs de lutte et qui finalement ont trouvé qu'il y avait trop de théories, trop de paroles et pas assez d'actions. Et pour elles, aller vivre à la campagne, travailler la terre, vendre leurs produits, s'impliquer dans des luttes locales, c'est aussi une manière de contrer. Et ça, justement, ça ne concerne pas que les minorités, je pense que ça peut parler à tout un chacun.
Et la politisation du quotidien, c'est en termes de consommation, hein, des choses très concrètes que vous décrivez, avec la question du gaspillage, du recyclage, favoriser l'échelle locale, tout ça, ça s'incarne, on en parlera évidemment tout à l'heure avec vous, Camille Chaudron, parce que la surconsommation est largement dénoncée et la simplicité, dites-vous, est très recherchée aussi par beaucoup d'entre elles. Ma dernière question, est-ce qu'il y a beaucoup de précarité aussi dans ces communautés de femmes ou pas ?
C'est un point intéressant parce qu'on peut parler de précarité, mais dans le même temps, ce sont des modes de vie qui, justement, permettent de vivre de peu. Donc on pourrait à la fois voir que ces personnes, pour certaines, reposent sur des aides ou ont très peu de revenus. Donc c'est, par exemple, dans le cas de l'agriculture, elles ne tirent pas forcément un revenu plein et entier de leurs activités agricoles. Mais en même temps, quand on les étudie dans la durée, comme l'a fait Geneviève Pruveau ou comme je l'ai fait aussi dans ma thèse, on voit qu'avec très peu de dépenses, beaucoup d'entraide, beaucoup aussi des systèmes de troc, d'échange, etc., ça tient.
Constance Rimlinger, donc ce livre qu'on peut lire maintenant au-delà de votre thèse, Féministe des champs, du retour à la terre à l'écologie queer, c'est aux Presses universitaires de France et je vais l'offrir à Camille Chaudron parce que je suis sûr qu'elle a envie de le lire. Et on vous retrouve dans un instant pour parler de votre compte Instagram Girl Go Green.
Je
C'était Laurent Barden sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
On est, c'est le mois des asperges. Je veux manger rien que des asperges. Aller pisser et sentir l'asperge. On n'a qu'à moi et j'aime trop les asperges. En risotto, à la mayo, en tarte ou en carpaccio. Qu'elles soient blanches ou vertes. Je les aime de tout mon être.
Voilà, Camille Chaudron, qui se cache sous la table de honte dans vos œuvres avec cette hymne aux asperges. Bah oui, on vous doit ça quand même.
Bah oui, merci.
C'est pas les seules œuvres qu'on va entendre d'ailleurs, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas mal. Girl Go Green, c'est votre compte Instagram. 130 000 followers, exploratrice de mode de vie écologique, conteuse de nouveaux récits, éveilleuse de conscience et briquée sur la mèche de l'engagement. Mais qui êtes-vous, Camille Chaudron?
Bah un peu tout ça, du coup. Et d'ailleurs, une écoféministe militante et qui a fait elle-même le mouvement de la ville à la campagne.
Donc,
tout ce que racontait Constance résonne beaucoup dans mon expérience.
Vous habitez où alors maintenant ?
Alors actuellement, j'habite à Joigny. Et Joigny, c'est véritablement une ville en transition dans laquelle...
Quel département ?
C'est dans l'Yonne. Dans le 89 et qui a réussi à attirer comme ça énormément de personnes qui font ce retour à la terre, qui font ce retour dans des plus petits formats de ville pour essayer de s'impliquer sur les territoires, amener plein d'initiatives coopératives, collaboratives, etc. et qui créent un mouvement de transformation hyper enthousiasmant du fameux monde de demain dont on nous a beaucoup parlé.
C'est ça, donc vous l'expérimentez en fait.
Moi je vis en utopie, moi je vis déjà dans le monde de demain aujourd'hui.
Vous vivez en 2050
hein? Moi je vis déjà en 2050, et c'est fabuleux.
C'est vrai, c'est bien de vivre en 2050.
C'est hyper chouette, il y a énormément d'entraide, beaucoup de résilience, des réseaux comme ça qui se mettent en place pour générer justement de l'aide aux agriculteurs, de la plus d'économie de subsistance et beaucoup de coopération.
Parce que là aussi, Philippe Bionduri, il y a un enjeu aussi à faire rêver sur le monde de demain, en tout cas tel que l'écologie nous le présente.
Ouais, faire rêver ou incarner. Après, moi, je pense qu'il y a deux manières de parler du quotidien. C'est de le politiser, comme on disait avant, ou c'est de le moraliser. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui mettent en avant le mode de vie, mais sous une forme très moralisatrice, qui peut, elle, au contraire, nous desservir complètement.
Vous pensez à quoi?
Il faut absolument trier ses déchets, sinon on est un mauvais citoyen, un mauvais écolo, etc., par exemple. Mais il y a une autre manière de politiser le quotidien, qui est au contraire, elle, source de liens sociaux, du coup, les gens se mettent à être en capacité de faire des choses eux-mêmes, de se relier à d'autres gens pour trouver des savoirs qui leur manquaient, etc. Mmh. Et là, ça devient super. Et je pense que c'est la meilleure manière, d'ailleurs, de faire rêver un peu sur le projet de demain. C'est qu'en fait, les gens se découvrent que, en fait, on crée du lien comme ça, du lien social, que c'est cool, qu'on apprend plein de choses.
Sauf qu'il y a plein de gens qui ont l'impression qu'on va les faire revenir à la lampe à huile, quand même. C'est toujours le même problème.
Ça, c'est les gens, généralement, qui essayent pas du tout, en fait, de changer leur vie, qui disent ça, en vrai. Quand on essaye un petit peu, on sait très bien qu'on peut se passer de beaucoup de choses et que c'est pas du tout une privation. Et ça, c'est juste pour parler des privations, parce qu'il y a plein de choses dont on se prive pas quand on est dans un projet écolo. Donc, voilà.
Camille Chaudron.
Complètement d'accord avec ça. Et puis surtout, j'ai l'impression que quand on se met en lien ensemble pour vivre un mode de vie plus écologique, en fait, on dépasse déjà toutes les actions individuelles. C'est-à-dire que moi, je vis entourée de personnes pour qui trier, c'est même plus une question, c'est une évidence. C'est tellement intégré. Manger de végétal, avoir une alimentation plus végétale, pareil, c'est la base, c'est la norme, en fait. C'est devenu ça. Et que derrière, l'étape que l'on fait ensemble collectivement après, c'est justement de politiser tout ça et de faire en sorte que en fait, le supermarché, ça devienne un supermarché coopératif, parce que c'est pas seulement chacun, chacune achète bio, local et de saison, mais comment on fait pour que ce soit disponible pour tout le monde, à des prix plus bas. Et ça, on y arrive quand on se met ensemble et qu'on s'organise de la même façon que, évidemment, que tout le monde se déplace en vélo. Mais en fait, l'étape d'après, c'est de monter une ressourcerie ou un atelier de réparation vélo qui fonctionne en autonomie, en autogestion et grâce aux bénévoles qui sont là.
Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de vivre comme ça, en fait. Aller dans une ressourcerie et faire du tri et vivre en communauté aussi, d'ailleurs.
Oui, complètement. Alors, j'entends sur le côté sur l'aspect communautaire qui n'est pas forcément sexy, et en même temps j'ai envie de dire je pense que nous sommes quand même des animaux sociaux et que dans cette logique il y a ce slogan de manif que j'aime beaucoup, moins de bien, plus de liens. On s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui le modèle capitalisme ou le récit en tout cas de la consommation n'est pas un récit qui fonctionne, c'est pas ce qui nous rend plus heureux d'avoir plus de voitures, mais en revanche nourrir des liens sociaux, humains, épanouissants, ça par contre, ça peut véritablement jouer sur notre bonheur. Et donc du coup, moi j'ai l'impression que justement, ça vaut le coup d'y goûter, ça vaut le coup de donner cette chance, sa chance à ce nouveau récit, parce que au final, on se rend compte que déjà, c'est beaucoup plus économique de vivre de manière écolo et en faisant tout ça, les ressourceries, les recycleries, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'économies pour le porte-monnaie. Et dans une période d'inflation, je pense que c'est très important également, parce que ça rend en fait, l'écologie de base, c'est quand même des réflexes pour n'importe qui fait aussi attention à ses budgets.
Avant Joigny, vous aviez déjà expérimenté d'autres formes de vie communautaire au Portugal, je crois, c'est ça?
Alors la toute première, en effet, toute première expérience que j'ai fait, c'était dans une ferme permacole au Portugal et j'y ai pris goût, puisque après ça, j'ai fait une grande aventure en France pour aller découvrir plein d'écolieux, de d'éco-villages, de tiers-lieux qui font ces choix-là de mode de vie plus résilient, plus sobre, décroissant, mais très épanouissant. On est pas dans une écologie privative, mais plutôt qui remet une bonne hiérarchie dans le sens que l'on donne aux choses. Et puis, je me suis moi-même arrêtée 2 ans dans un écolieu en Mayenne. J'ai souhaité en fait rejoindre un écosystème plus large, parce qu'en fait, au sein d'une ferme, c'est hyper intéressant. Donc, j'ai fait le mouvement de la ville à la ferme, puisque j'ai moi-même passé mon BPREA, qui est le diplôme d'agriculture l'agriculture, enfin le premier diplôme d'agriculture qu'on peut avoir. Donc je me suis formée à ça. Et ensuite, je me suis dit, oui, mais c'est trop chouette de vivre de manière hyper alignée avec mes valeurs, hyper résiliente. On était autonome en eau chaude. Il y avait plein de choses qui allaient en chauffage. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient trop chouettes en fruits et légumes. Et tout.
Qu'est-ce qu'elle est pas?
Ben justement, j'avais envie que ce soit politique, en fait. J'avais envie que ce soit plus politique. Pas seulement à l'échelle d'un collectif, d'une ferme, mais à l'échelle bien d'un territoire. Parce que je pense que c'est super chouette d'avoir des utopies qui sont incarnées, mais c'est encore mieux si elles se diffusent et si elles embarquent avec elles tout un territoire, parce que ce maillage, on a besoin de l'avoir.
Constance Rimlinger.
Oui, ça me donne envie de réagir. Je rejoins tout à fait Camille. C'est vrai qu'il y a cette question de l'initiative ou de ce que fait un individu ou un petit groupe. Mais ensuite, c'est un moment clé aussi de réussir à s'intégrer dans un tissu local. Et c'est là que ça devient politique et puissant d'ailleurs. C'est quand il y a tous ces liens dont tu parlais qui se mettent en place et...
Exactement.
Et ces réseaux.
Exactement. Et donc, du coup, là, tu vois, genre, j'ai fait un espèce de rétropédalage un tout petit peu. Je suis moins dans un écolieu. Enfin, je suis encore en recherche, mais je suis un peu moins dans un écolieu. Par contre,
Je suis dans un écosystème.
Exactement. C'est vraiment ça. Et ça, c'est incroyable à vivre parce que vraiment, les initiatives positives fourmillent dans tous les sens. Et il y a de la place pour tout le monde. Il y a besoin d'aide. Et en même temps, c'est hyper enthousiasmant.
Philippe Bionduri, quand on entend ces expériences communautaires là, et qu'on repense à celles qui existaient par exemple dans les années 70, où on nommait ce genre d'expérience celle des babacools en fait, hein, on était un peu ça. Qu'est-ce qui distingue finalement ce qui a été expérimenté dans ces décennies-là avec aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé selon vous?
Ce qui a changé, c'est que de Monte Verita jusqu'à 68, c'était quand même centré sur l'épanouissement de l'individu, l'individuation, la libération des carcans sociaux, patriarcaux, etc. Qu'aujourd'hui, globalement, ces expérimentations-là, elles s'articulent autour du vivre en commun, de la durabilité de nos modes de vie, d'avoir un avenir pour nos enfants, etc. Enfin, il y a une sorte de tournant réaliste, presque, j'ai l'impression. Ce qui ne résume pas du tout, hein, mais c'est quand même, ils me sont beaucoup plus présents. Après, sur la question des modes de vie, moi, ça fait toujours rire ce qu'on dit aux gens, toi, on n'a pas envie de vivre comme vous. Bah oui, évidemment, ça se pose pour les Addis, ça se pose pour plein de gens. Mais en fait, personne ne demande à tout le monde de vivre comme Camille ou comme un tel ou une telle. En fait, il y a une composition de modes de vie à créer. Il y a des gens qui veulent rester urbains, il y aura des villes demain dans une cité écolo. Enfin,
ça peut rassurer ceux qui nous écoutent et qui sont horrifiés par ce qu'ils entendent.
Non, mais en fait, il y a toujours eu différents types de modes de vie et des gens qui pourraient les épouser. C'est pas du tout, on n'est pas en train de ni de dessiner à un individu seul, ni pas dessiner ce que sera le mode de vie de demain.
Et honnêtement, moi j'ai l'impression que mon mode de vie ressemble assez au mode de vie de tout le monde, si ce n'est que, vous voyez par exemple, sur l'utilisation de la voiture, en fait, on met en commun nos voitures, c'est-à-dire qu'on a une boucle de 70 personnes où quand quelqu'un a besoin d'une voiture, le demande et quelqu'un qui a une voiture disponible la propose avec un système de compensation, évidemment. En fait, c'est assez simple. Et pour réagir aussi sur les mouvements 68, tard, babacool et tout. Moi, j'ai l'impression aussi de ce que je projette, c'est que ces mouvements-là étaient aussi assez éloignés des territoires, forcément, dans lesquels ils s'implantaient. Alors que là, on est sur des mouvements qui, en fait, sont carrément intégrés sur les territoires.
Dans municipalités, par exemple, au cœur des villes ou des villes moyennes, en tout cas.
Ou des villages, tout à fait, avec cette volonté d'amener quelque chose aussi à tout le monde.
Camille Chaudron, encore un petit extrait de vos œuvres avec le tri, par exemple, puisqu'on parlait du tri des déchets.
En 2023, tout a changé, les consignes de tri sont simplifiées. Si t'as pas suivi ou tout capté, alors je vais te les résumer. Où est-ce que je mets ma boîte à lait?
La poubelle jaune.
La poubelle jaune.
La poubelle jaune.
Voilà, le tri par Camille Chaudron, ou sur votre compte Girl Go Green. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser, vous qui êtes très présente sur Instagram. Est-ce que dépendre des GAFAM, c'est pas un peu contradictoire quand
Alors,
même?
Alors, c'est complètement contradictoire.
C'est une question qui...
Non, mais en fait, c'est la question que j'ai envie de dire, je me pose tous les jours, hein, évidemment. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je n'en dépends pas. C'est-à-dire que j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que mon activité professionnelle ne repose pas uniquement sur l'activité que j'ai via les réseaux sociaux et un outil que je ne maîtrise pas, qui ne m'appartient pas et surtout qui appartient à des personnes contre qui je lutte.
Donc ça vous permet de passer des messages aussi, évidemment.
Ça me permet de passer des messages. Je pense que c'est important, encore une fois, d'aller occuper n'importe quel espace médiatique disponible avec les sujets d'enjeux écologiques et sociaux, parce qu'aujourd'hui ils ne sont que trop peu adressés, surtout dans une société qui va de plus en plus via ces outils sur du divertissement. C'est important de porter un autre message. Mais pour autant, je multiplie les casquettes professionnelles pour justement pas dépendre de ça.
Merci beaucoup Camille Chaudron. Girl Go Green, hein, c'est donc votre compte Insta pour découvrir vos activités. On peut également donc lire ce livre Féministe des champs aux presses universitaires de France que vous signez Constance Rimlinger et puis s'abonner à Fracas qui sortira donc à la rentrée.
La Terre au carré sur France Inter.
Comme tous les vendredis, c'est l'heure de retrouver Annaëlle Verzo avec Le Jour Où.
Je m'appelle Arthur Gosset, j'ai 27 ans, je suis réalisateur de documentaires et je vais vous raconter le jour où j'ai compris que nos emplois pouvaient changer le monde. C'était le 14 octobre 2021. C'était à peu près un mois après la sortie de mon premier documentaire qui s'appelle Rupture et qui parle du changement de cap des jeunes diplômés face à l'urgence écologique. On m'invite, je suis invité pour intervenir dans une entreprise, une multinationale pétrolière, pour les sensibiliser aux enjeux écologiques. Donc je me dis, toute intervention est bonne à prendre, quel que soit le public, quand on peut sensibiliser. Et puis je me présente et tout de suite, merci monsieur Gosset d'être ici. Vous avez un ascenseur qui est réservé pour vous, il faut prendre tel ascenseur et vous monter à tel étage. Alors je descends de l'ascenseur et c'est de la moquette rouge. Il y a des hommes habillés de blanc, gantés, qui se baladent comme ça devant moi. Il y a aussi une salle de réception pour déjeuner qui est très luxueuse en fait. Et je rentre dans la salle ovale, c'est assez dingue, mais c'est vraiment comme dans les films, c'est cette grande salle avec une immense table. Il doit y avoir une trentaine, une quarantaine de chaises, et il y a une quinzaine de personnes qui sont présentes. Je découvre que ce sont des personnes qui ont des très hautes responsabilités au sein de l'entreprise. Et je commence à dérouler mon intervention sur les enjeux écologiques. Bon, je me dis, mais pourquoi ils me contactent moi pour parler de ça? Et en fait, 5 minutes après que j'ai commencé à parler, on m'interrompt. Il y a une dame qui m'interrompt et qui me dit « Non, monsieur Gosset, on vous a pas fait venir ici pour parler des enjeux écologiques. On est très au courant de ce qui se passe d'un point de vue environnemental. En fait, on aimerait que vous nous parliez de la quête de sens des jeunes diplômés. » Ah. Et elle me dit « Voilà, monsieur Gosset, vous êtes ingénieur environnemental ?» Oui, effectivement, diplômé. C'est au courant qu'on recrute des ingénieurs environnementaux ?» Je sais, oui, je sais. J'imagine que vous n'avez pas postulé chez nous. Je lui dis « Effectivement, non. » Est-ce que vous avez des camarades de votre promo qui ont postulé chez nous ? Et je lui dis, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne connais personne qui a postulé chez vous. Et elle me dit, écoutez, on aimerait bien comprendre pourquoi. Et puis, il me pose des questions sur, quel salaire est-ce que vous seriez prêt à accepter ? Peut-être que le télétravail, ça pourrait jouer. Et puis, au fil de la discussion, je leur fais comprendre qu'en fait, non, c'est si moi, personnellement, et des amis que je connais autour de moi refusent d'aller travailler chez eux, c'est uniquement pour des questions de conviction environnementale, quel que soit le salaire qu'on pourrait percevoir, parce qu'on est pris par les tripes, quoi. Et en fait, le fait que là, des jeunes diplômés refusent d'aller travailler chez eux, on les met en difficulté sur le plan économique puisqu'elles n'arrivent plus à recruter. Et une entreprise qui n'arrive pas à recruter, qui n'arrive pas à trouver les humains en interne pour faire tourner la baraque, c'est une entreprise qui meurt, quoi. Et là, il y a un bras de levier qui est assez énorme. Que ce soit les ouvriers et ouvrières qui travaillent sur les plateformes pétrolières ou les ingénieurs qui conçoivent justement les machines qui vont pouvoir forer du pétrole à des kilomètres. Je me dis, en fait, oui, si on est suffisamment nombreux à refuser ce type d'emploi, on les met en difficulté et donc on va les inciter à se transformer. Elles n'auront juste pas le choix parce que sinon elles mourront. Par les emplois, on rentre dans la case économique et donc on leur parle. On a le même langage. Quelques mois après, je suis contacté par un jeune ingénieur qui travaille chez Total et en fait, il me donne des chiffres et il me dit, on a mis une offre pour recruter un ingénieur il y a quelques mois. Sur l'offre qu'on a placée, on a eu 98% d'ingénieurs étrangers, 2% d'ingénieurs français qui ont postulé. Il y a 5 ans, on avait posté la même offre. Et sur la même offre, on avait 70% d'ingénieurs français. On peut faire vraiment pression économiquement, quoi.
Arthur, qu'est-ce que ce jour a changé pour toi ?
Ce jour, pour moi, il a tout changé dans ma vie. J'ai la pêche de dingue, je me dis, ok, en fait, là, mon seul objectif, c'est de faire en sorte de, ne serait-ce que d'accompagner quelques personnes vers des métiers plus durables et faire en sorte qu'ils n'aillent pas travailler dans des métiers qui contribuent au creusement des inégalités, à la destruction du vivant. Et ça a tout changé dans ma vie, puisque du coup, suite à ça, j'ai créé une association à Rennes avec ma compagne qui s'appelle Séisme. Et donc justement, l'objectif de Séisme, c'est de bousculer les trajectoires professionnelles au service d'une transition, d'un avenir du vivant, d'un avenir qui soit plus juste et plus durable.
Et c'était Le Jour Où, signé Annaëlle Verzo.